Le livre que je vais présenter, c'est un livre sur le handicap, mais la manière dont est construit l'objet en fait aussi, à mon avis, bien autre chose. C'est un livre qui interroge, de manière, à mon avis, très intéressante, la place des sciences sociales, et en particulier de la sociologie, dans le cadre des sciences de l'homme et des sciences du vivant. Un livre qui interroge, à partir de la question du handicap, les relations entre la sociologie et les sciences biomédicales, comme les appelle Romuald Vaudin. Alors que cet objet tend à être fortement, le handicap tend à être fortement associé aux sciences biomédicales, Romuald restitue une place centrale, voire première, à la sociologie, et en particulier à une sociologie des institutions. En effet, il ne s'agit pas seulement pour l'auteur de contester la domination des sciences biomédicales sur le traitement et l'analyse du handicap, et de plaider pour que soit gentiment octroyée une légitimité aux sciences sociales sur cet objet. Il s'agit d'affirmer que les sciences biomédicales, telles qu'elles existent actuellement, ne sont pas en mesure de produire une théorie satisfaisante du handicap et qu'il faut donc abandonner tout simplement leur conception. C'est donc un programme fort pour la sociologie qui serait la seule discipline à pouvoir proposer un cadre d'analyse qui permette de rendre compte rigoureusement du handicap, c'est-à-dire qui permette de proposer une définition satisfaisante du handicap. Qu'est-ce que c'est qu'une définition satisfaisante du handicap? C'est-à-dire une définition qui englobe l'ensemble extrêmement varié des situations que regroupe la catégorie des personnes handicapées. C'est aussi une théorie sociologique, un cadre qui permette de rendre compte de la manière dont ce phénomène est construit et des effets qu'il a sur ceux qui sont en situation de handicap. Alors ce livre a une force évidente qui est qu'il est une démonstration très robuste. Les parties, alors c'est un livre qui est construit en deux parties, mais les sous-parties ne sont pas des parties du tout qui sont juxtaposées, il y a de véritables enchaînements, et c'est donc la raison pour laquelle je vais essayer du mieux que je peux de rendre compte de cette démonstration et des étapes qui la constitue. Alors je reprendrai les étapes, sans sauf exception, les étapes telles qu'elles sont présentes dans le livre. Donc dans mon introduction, je présenterai ces étapes, j'en ai distingué quatre, alors que le livre n'a que deux parties, deux chapitres. Moi je distingue quatre étapes, mais disons que ce n'est pas du tout reconfigurer le livre de Romuald. La première étape de la démonstration de Romuald est la critique des approches biomédicales du handicap basée sur un triptyque qui structure la perception du phénomène, un triptyque basé, un, sur la notion de déficience, deux, sur la notion d'incapacité. Alors évidemment, déficience, c'est on a une maladie, on a été amputé, etc. Ça provoque des choses qu'on ne peut pas faire, une incapacité. Et troisième élément de ce triptyque, la réduction de la participation à la vie sociale. La première étape donc, de la démonstration, c'est l'invalidation de cette approche dominante du handicap. Deuxième étape, compte tenu de l'impossibilité donc, de rendre compte du handicap tel qu'il est actuellement construit en se basant sur ses conceptions biomédical, il s'agit, selon Romuald Vaudin, de rejeter les approches sociologiques qui, tout en relativisant ces approches biomédicales, voire en les critiquant, ne remettent pas radicalement en cause leur conception, et notamment qui ne remettent pas en cause le lien entre handicap et déficience, ces approches qu'il appelle socio-environnementales. Alors, je reviendrai là-dessus, je développerai. Troisième étape, cette troisième étape est logiquement constituée par la présentation de la théorie sociologique du handicap défendue par l'auteur. Le handicap gagne, selon Romuald, à être appréhendé comme une anormalité d'institution. Je n'en dis pas plus, je reviendrai dans le corps de mon intervention. Alors ces trois premières étapes de la démonstration constituent la première partie du livre. le premier chapitre, il y a deux chapitres. La dernière étape, la quatrième de la démonstration, qui correspond à la deuxième chapitre du livre, montre comment le handicap est le produit de la rencontre entre cette anormalité d'institution dont je viens de parler et une bureaucratie du handicap que Romuald appelle une institution au second degré. Il ne s'agit pas d'être reconnu qu'il y ait une anormalité d'institution qui apparaisse, il faut que cette, pour que le handicap soit validé, qu'elle soit reconnue par une bureaucratie d'État. Et donc c'est ce passage à la bureaucratie d'État que va étudier Romuald dans le second chapitre de son livre. J'irai assez vite sur la méthodologie, sur laquelle d'ailleurs tu t'étends relativement peu, mais bon, qui est, je dirais, assez classique et assez riche. L'enquête a eu lieu entre 2013 et 2016. Elle mobilise plusieurs outils sociologiques. Alors l'entretien avec des personnes en situation de handicap, mais aussi avec des professionnels. Un questionnaire, des observations notamment dans les maisons départementales pour les personnes handicapées. L'analyse secondaire d'enquête de l'INSEE. Et enfin, une analyse des textes des principales lois sur le handicap. Une sorte de mobilisation assez, assez riche de plusieurs outils sociologiques. Donc j'en viens à ces quatre étapes de la démonstration qui construisent ce livre. Donc première étape, critique des conceptions du handicap sous-tendues par les approches des sciences biomédicales et structurées par le triptyque déficience, incapacité et réduction de participation à la vie sociale. Donc le premier argument mobilisé pour critiquer ces conceptions biomédicales basées sur la déficience est de souligner que cette conception ne permet pas de rendre compte d'un nombre très important de cas, hein, de personnes qui sont en situation de handicap. Pour montrer ce décalage, l'auteur s'appuie sur l'enquête de l'INSEE Handicap Santé Volet Ménage de 2008. Cette enquête montre par exemple que moins d'une personne sur 10 déclarant une déficience déclare aussi une reconnaissance de handicap. Moins d'une personne sur 10 déclarant une déficience déclare aussi une reconnaissance du handicap. Il n'y a pas du tout une sorte de superposition entre déficience et handicap. La notion de déficience est d'ailleurs si floue qu'elle concerne, à partir d'un certain âge, la majorité de la population. Ceci étant dit, les tenants de la conception biomédicale peuvent rétorquer, pour défendre leur modèle, que le handicap ne se réduit pas à une déficience, mais à ses conséquences en termes d'incapacité de participation à la vie sociale. Cependant, comme le montre Romuald Bodin à partir de son analyse de l'enquête INSEE, l'enquête met aussi en évidence que de très nombreuses situations de handicap échappent à ce triptyque, c'est-à-dire que parmi les personnes qui sont reconnues en situation de handicap, la majorité ne correspond pas à des personnes qui sont déficientes, qui ont une incapacité et qui ont une réduction de leur participation à la vie sociale. Seuls 40% des personnes ayant répondu à l'enquête entrent dans cette configuration. Elles déclarent les trois éléments du triptyque. Pour le reste, les répondants déclarent soit une incapacité, mais aucune restriction d'activité, une réduction d'activité, mais aucune incapacité, soit encore, de manière plus surprenante, des personnes en situation de handicap qui déclarent n'avoir ni incapacité, ni restriction d'activité. Enfin, pour montrer enfin le décalage entre la catégorie et la réalité, 20% des personnes en situation de handicap ne se perçoivent pas comme handicapées. En d'autres termes, les personnes victimes d'une déficience conduisant à une incapacité, elles-mêmes entraînant une restriction de leur activité sociale, ne constituent nullement le cœur de la population de personnes handicapées. Alors, certains pensent que ces chiffres, ces décalages, ne sont que l'expression d'une erreur, soit des répondants à l'enquête, soit des personnes impliquées dans l'administration du handicap. A l'inverse, Romuald estime qu'ils sont la preuve de l'inadéquation du cadre actuel mobilisé pour penser les handicaps. Le handicap. Dans ces conditions, il faut donc rompre avec ce type de définition qui accorde un primat à la notion de déficience. Donc, on en vient à la deuxième étape du raisonnement, qui n'est pas exactement celle-ci dans le livre, mais enfin, je la place là, mais c'est peu d'importance. L'idée, c'est que on ne peut que critiquer les approches dites socio-environnementales qui se sont multipliées à partir des années 1970 et dont on peut dire qu'elles sont actuellement dominantes. Alors, ces approches tendent à ajouter des critères médicaux, à ajouter aux critères médicaux des critères sociaux. Hein. Dans cette perspective socio-environnementale, le désavantage social n'est par conséquent pas seulement le résultat de la sévérité de la déficience, il dépend aussi des exigences de l'environnement. En gros, ces approches tendent à dire que y a une déficience, mais il faut aussi prendre en compte que cette déficience n'est rien si on la coupe de l'environnement dans lequel elle se développe, elle s'exprime, etc. Donc, en procédant ainsi, les sociologues socio-environnementaux, pourrait-on dire, ont l'impression de contester la primauté de la déficience et de défendre l'idée qu'il faut appréhender le handicap à partir de l'environnement. Mais, comme l'écrit Romuald, suffit-il de complexifier le modèle avec une sorte d'œcuménisme théorique et d'additionner ou de faire interagir les différentes dimensions des modèles précédents en espérant que la complétude de chacun d'eux soit compensée par les autres pour rendre compte du phénomène du handicap. Donc, pour Romuald, cet œcuménisme théorique est une impasse dans la mesure où, finalement, il préserve cette représentation dominante qui associe le handicap à ce triptyque fondamental que j'ai évoqué. D'où la troisième étape qui est proposer une définition alternative du handicap basée sur une théorie sociologique fondée non plus sur l'environnement mais sur l'institution. Alors, dans cette perspective, le handicap est défini comme une anormalité d'institution. Alors, voilà, une institution, on peut rappeler une sorte de quelques traits caractéristiques. Une institution génère un ensemble, je cite Romuald, un ensemble de dispositifs concrets, de mise en ordre de la vie sociale, qui implique non seulement des usages institués et des règles, mais aussi des lieux et des objets, des outils et des techniques, des formes de contrôle, de valorisation et de punition, une division des tâches, des statuts et des hiérarchies. Le handicap devrait donc être compris, selon lui, comme une déviance par rapport aux normes institutionnelles, déviance qui a ceci de particulier qu'elle remet en cause l'ordre institutionnel, qu'elle l'empêche de fonctionner, qu'elle le paralyse, et déviance, je vais développer tous ces points, déviance qui a ceci de particulier par rapport à d'autres formes de déviance, qu'elle ne peut être imputée à la volonté du déviant. Alors, cette définition alternative du handicap comme anormalité d'institution permet à Romuald de rendre compte notamment de la plasticité dans le temps et dans l'espace des reconnaissances de handicap. Selon cette logique, et je cite l'auteur, toute reconfiguration de l'environnement social conduit possiblement à l'émergence de nouvelles formes de handicap. Les institutions changent. Ce qui conduit Romuald à cette proposition assez radicale, il est donc possible de conclure que toute personne est potentiellement déficiente, et ce, indépendamment de ce qu'elle est. Il ajoute « L'invalidité semble être la condition normale et universelle de l'humanité, car la validité du valide est elle-même toujours un état temporaire et sous condition. » Passer par l'institution rendrait possible de penser la diversité et le changement. Par ailleurs, effectivement, le recours à une sociologie des institutions a le mérite de permettre de rendre compte de la variété des situations de handicap. En effet, les institutions qui produisent le handicap, qui sont majoritairement l'école, le travail, la famille, produisent des formes différentes de handicap, de différences significatives qui vont être interprétées comme des handicaps, et donc ça explique l'éclatement de la catégorie. Alors, j'ai trouvé très intéressant la façon dont Romuald critique l'approche classique inspirée des théories biomédicales, et notamment la façon dont sont catégorisées les différentes familles de handicaps. Comme vous le savez sans doute, les handicaps sont catégorisés en handicap cognitif ou mental. Hein, alors par exemple une déficience intellectuelle ou un trouble des apprentissages comme la dyslexie, un handicap psychique, par exemple une maladie mentale comme la schizophrénie, un handicap moteur, une paralysie, une amputation, et un handicap sensoriel, par exemple une surdité. Et Romuald va déconstruire cette manière de catégoriser le handicap en croisant ces catégories de handicap avec l'âge auquel la reconnaissance de handicap est obtenue. Et en procédant ainsi, il montre que chaque famille de handicap tend à correspondre à un certain âge social. Par exemple, le nombre de reconnaissances de handicap cognitif, par exemple dyslexie, a des pics correspondant à l'entrée dans les différents niveaux scolaires, maternelle, élémentaire, collège, lycée. Chaque rencontre entre les élèves et un nouveau niveau scolaire est suivie de la reconnaissance de nouveaux handicaps cognitifs. De même, la rencontre avec l'univers du travail, entre 19 et 23 ans, engendre un pic de reconnaissance de handicap moteur. De même, la fin de la carrière professionnelle est aussi marquée par des reconnaissances de handicap visant à faciliter la sortie du travail, d'où un deuxième pic de reconnaissance de handicap moteur à ce moment-là. Selon la même logique, le pic de handicap psychique, qui se situe entre 33 et 37 ans, il faudrait dire la reconnaissance de handicap psychique qui se situe entre 33 et 37 ans, correspond à l'âge du mariage ou du moment où on essaye de fonder une famille, ce qui tend à montrer la manière dont le handicap psychique est directement lié à l'institution familiale. En somme, Romuald Bodin requalifie ces types de handicap en montrant que chaque institution définit à certains moments de la trajectoire biographique des personnes un ensemble de différences significatives observables en son sein et en lien avec ses objectifs et sa fonction. Et ce passage par l'âge me semble très convaincant pour montrer à quel point les handicaps sont liés à des institutions. Alors, en étudiant le handicap comme la conséquence d'une anormalité d'institution, on peut essayer, comme le fait Romuald, de déterminer le poids et la nature des logiques sociales qui, à l'intérieur de chaque institution, produisent du handicap. Alors, de manière générale, on peut dire que les normes institutionnelles sont des normes socialement situées, avec lesquelles les familles des classes moyennes et supérieures sont, dans l'ensemble, plus connivantes. Je ne vous apprends rien. Et il n'est donc pas étonnant de voir que le handicap ne se répartit pas au hasard dans l'espace social. Le risque d'être confronté à une situation de handicap est 4 fois plus élevé pour les ouvriers que pour les cadres. Alors, comme le souligne Romuald, on peut cependant s'interroger sur le sens de la causalité. Est-ce que c'est la position sociale des classes populaires qui se traduit par un métier difficile ou par un moindre accès aux soins qui est à l'origine du handicap? Ou est-ce que le handicap, parce que il va déboucher sur des études plus courtes, par exemple, est-ce que c'est le handicap qui assigne la personne à une position sociale subalterne, etc. Alors, pour aller plus loin dans la démonstration, Romuald s'intéresse à l'origine sociale, le lien entre origine sociale et handicap, et il montre que les personnes issues des classes défavorisées, des classes populaires, ont 30 fois plus de risques d'être concernées par une reconnaissance du handicap. Donc, on voit bien ici le lien très fermement établi entre les propriétés sociales des individus, les institutions et le handicap. Comprendre le poids du social, c'est aussi comprendre comment ce poids varie en fonction des types de handicap. Par exemple, pour les troubles du langage, auditif, visuel, les troubles viscéraux, l'écart entre les enfants de cadre et les enfants de classe populaire existe, mais il n'est pas très important. En revanche, pour les troubles, les handicaps liés à des troubles, les troubles cognitifs et intellectuels, évidemment, c'est là que la différence entre les enfants, le pourcentage d'enfants de cadre et le pourcentage d'enfants issus des classes défavorisées est évidemment le plus important. On sait que l'école est une institution qui produit énormément de différences, et donc en fait il est normal évidemment ce soit là sans doute que les déficits, les anormalités d'institutions liées à l'école engendrent le plus de différences et le plus entre enfants de cadre, enfants issus des milieux défavorisés. Alors, la théorie sociologique du handicap telle qu'elle est proposée par Romuald soulève, comme il le remarque lui-même, un problème, dans la mesure où elle tend à effacer les seuils dont il a montré le caractère sans doute factice, qui servaient néanmoins à identifier les personnes en situation de handicap. En effet, si ce n'est la déficience qui est handicapante, mais bien plutôt la situation institutionnelle, comment va-t-on faire pour repérer ceux qui sont handicapés et ceux qui ne le sont pas ? S'il n'y a plus la déficience comme critère central de démarcation de la catégorie, comment va-t-on procéder ? Alors, comment faire la différence entre l'élève qui a des difficultés scolaires et qui entre dans le cadre normal du processus de différenciation consubstantielle à l'institution scolaire et l'élève dont la différence est significative et doit donner lieu à une reconnaissance de handicap ? Ou, comme le dit Romuald avec un peu de provocation, comment faire la différence entre qu'est-ce qui distingue, face aux marches d'un escalier, la personne en fauteuil et la personne poussant un landau. Donc, à mon avis, à ce niveau de l'analyse, soit on rejette complètement la notion de handicap, soit on essaye de faire réapparaître, d'inventer, de retrouver des critères qui permettent de réintroduire des différences entre la personne en situation de handicap et celle qui ne l'est pas. Alors c'est cette deuxième option que choisit l'auteur. S'inspirant des analyses que Michel Foucault fait de la monstruosité dans son cours au Collège de France sur les anormaux, Romuald va essayer de retrouver des critères. Et il souligne que l'anormalité d'institution associée au handicap se caractérise par une double transgression institutionnelle. La première transgression est celle des attentes, donc, et des catégories de classement ordinaire de l'institution. Un élève qui n'arrive pas à apprendre à lire au bout de 2 ans d'apprentissage de la lecture, enfin c'est moi qui dis ça, pas de progrès, pas de déclic, et par ailleurs, par exemple, un élève qui est très bon en mathématiques. Ça commence à être inhabituel. Il s'agit donc d'une différence qui, contrairement à d'autres, échappe aux habitudes de pensée, aux attentes de l'institution et des agents. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que cette différence paralyse l'institution, l'empêche de fonctionner, la laisse sans voix. Telle est la différence fondamentale, d'après Romuald, entre l'élève en difficulté ou l'élève perturbateur, d'un côté, et l'élève handicapé de l'autre. La différence entre le travailleur inefficace ou insoumis d'un côté et le travailleur handicapé de l'autre. Donc, en gros, cette deuxième transgression, c'est l'idée qu'il faut, pour être reconnu handicapé, il faut que la différence significative, l'anormalité d'institution, implique l'impossibilité pour l'institution d'appliquer ses règles de fonctionnement et ses réponses habituelles, ce qui revient, en quelque sorte, à la remettre en cause de manière assez radicale. Par exemple, prenons l'exemple que développe Romuald dans son livre, une enfant qui est tellement anxieuse et timide qu'elle ne peut être évaluée par son enseignant. Et elle remet ainsi, ne pouvant être évaluée, profondément en cause le fonctionnement, un des éléments clés du fonctionnement de l'institution scolaire. Ce qui fait de cet élève un cas particulier, c'est le degré de sa timidité, l'intensité de sa timidité qui surprend l'enseignante, en ce qu'elle s'écarte des attitudes scolaires considérées comme normales ou probables. Mais ce qui va conduire vers le handicap, c'est qu'elle ne peut pas être évaluée, ce qui remet en cause radicalement le fonctionnement de l'institution scolaire. Par ailleurs, on y revient, les difficultés de cet élève ne sont pas perçues comme intentionnelles, ce qui distingue très clairement la figure de l'élève en situation de handicap d'autres figures de la transgression institutionnelle que sont le criminel ou le révolté, le perturbateur ou l'insoumis. Donc on voit à travers ces démarches que Romuald essaye de maintenir la catégorie, mais en la redéfinissant et en lui trouvant d'autres critères permettant d'identifier une population de personnes en situation de handicap. Donc, j'en viens maintenant à la dernière étape de la démonstration de Romuald, qui correspond au deuxième chapitre de son livre et qui s'intitule « L'administration du handicap ». Effectivement, le handicap, la reconnaissance du handicap, un processus qui implique que le handicap soit administrativement reconnu. Et on peut dire que les maisons départementales pour les personnes handicapées, qui sont les principales institutions qui gèrent ce genre de questions, sont des institutions de second degré, d'après Romuald, c'est-à-dire des institutions, des dispositifs qui ont pour fonction de réguler les régulations opérées par d'autres institutions. C'est-à-dire que l'école, par exemple, fait apparaître des anormalités, mais pour qu'il y ait handicap, il faut que cette anormalité soit traitée par une institution de second degré, qui est cette bureaucratie liée au handicap. Et selon Romuald, ce passage du premier au second degré est loin de n'être qu'un enregistrement. Alors que de nombreuses analyses présentent ce passage du premier au second degré comme une formalité, va essayer de montrer tous les effets que produit cette bureaucratie du handicap sur ceux qui en sont les usagers. Dans un bref passage socio-historique, mais qui me semble tout à fait éclairant, Romuald cherche dans un premier temps, analyse finalement la genèse, un peu la socio-genèse de cette administration du handicap qui, comme je l'ai dit aujourd'hui, s'incarne à travers un réseau institutionnel de maisons départementales pour les personnes handicapées. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bureaucratie du handicap, elle s'inscrit dans un processus plus général de rationalisation, tout à la fois bureaucratique et gestionnaire, de l'action sociale. Alors, il s'agit notamment, au milieu des années 1970, de rationaliser, comme le dit Romuald, le domaine des exclus. La référence est explicite dans le livre, il cite le livre de René Lenoir. Les exclus, ce qui sont, d'après René Lenoir, 2 millions de handicapés physiques et mentaux, plus d'un million de personnages âgés invalides, 3 à 4 millions d'inadaptés sociaux. Donc, la rationalisation qui vise à mettre en œuvre une action sociale globale passe à la fois par la mise en cohérence des différents secteurs d'activité, institutions, professions, à travers des approches dites transversales, on pourrait dire partenariales. Moi, j'ai beaucoup étudié ça ces dernières années. On veut faire absolument structurer un secteur qui menace d'éclatement, mais aussi un travail de production de catégories, moi je dirais de métacatégories suffisamment floues pour pouvoir regrouper des situations qui, par définition, sont très différentes. C'est-à-dire que si vous voulez réunir tous les professionnels qui traitent de ces questions aussi différentes que traite l'action sociale en général, il faut trouver des catégories suffisamment floues pour pouvoir subsumer toute cette hétérogénéité. Le handicap est une de ces catégories suffisamment floues pour pouvoir regrouper des situations très disparates. Moi, dans le domaine de l'enfance que j'étudie, par exemple, la notion de réussite éducative remplit à peu près la même fonction, c'est-à-dire de regrouper l'enseignant, l'assistante sociale, le psychologue autour d'un terme comme ça, effectivement extrêmement flou et neutre. Alors, donc, en subsumant sous un terme unique une diversité de situations, une diversité de dispositifs auparavant très différents, variés, épars, l'État se donne le moyen de justifier l'imposition de procédures et de règles communes, notamment en appréciant, pour apprécier les taux d'incapacité des individus et pour décider éventuellement de l'attribution du statut de travailleur handicapé, des aides matérielles ou humaines qui vont avec, etc. En d'autres termes, via l'administration du handicap, la bureaucratie du handicap, l'État centralise et coordonne ce qui auparavant se faisait ou se traitait de façon dispersée par divers agents, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, où on peut dire qu'il se faisait aussi, donc en fait il y avait que ces institutions du premier degré hein, qui produisaient des anormalités d'institutions, mais qu'il n'y avait pas un travail fédérateur de l'État. En fait, ce qui est dit dans cette deuxième partie, Romuald, c'est l'effet que produit notamment cette bureaucratie d'État sur les usagers qui y sont confrontés. Avant de parler de ces effets, il y a un point qui est très important, c'est que cette administration du handicap place les personnes concernées en situation de demandeur. C'est-à-dire que pour obtenir une reconnaissance de handicap, il faut le demander. On ne peut pas imposer à quelqu'un un handicap, une reconnaissance de handicap. C'est très important, parce que moi j'ai vu beaucoup sur mon terrain des familles, effectivement, qui ne voulaient pas. En tout cas, dans certaines situations, j'y reviendrai. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce que Romuald appelle les conditions sociales de la demande de reconnaissance, c'est-à-dire comment ça se passe, qui demande, qui a tendance à demander, à ne pas demander, quelles sont les résistances, ou au contraire, quels sont ceux qui sont très partants pour demander, Romuald opère une distinction et propose de distinguer deux configurations. C'est-à-dire, vision en termes de, je crois qu'il n'utilise pas le terme, on pourrait dire en termes de moment où le handicap apparaît dans la carrière de la personne, dans la trajectoire biographique. Par exemple, le premier cas, c'est celui où la situation de la personne change à un moment donné, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient intégrées dans différentes institutions, de leur âge, puis à un moment donné, il y a un accident biographique, une maladie, un accident violé, et Romuald souligne que, en général, les personnes avaient tendance à avoir intériorisé avant leur accident ou leur maladie, enfin il peut y avoir différentes, c'est moi qui dis accident-maladie, mais il peut y avoir d'autres causes, les chaînes de perception et de classement de l'institution, et donc ils tendent à se classer eux-mêmes comme des anormaux. Voilà, avant j'étais normal, maintenant voilà, j'ai vu que je suis plus en phase avec les normes institutionnelles telles que je les ai connues. Donc dès lors, l'officialisation de leurs différences s'impose comme une évidence. Mais il y a une seconde situation, celle où la personne concernée ne peut pas identifier de repère temporel, de rupture temporelle, marquant l'entrée dans la différence. Alors, dans cette seconde configuration, l'anormalité d'institution est généralement vécue comme une relation d'incompatibilité qui ne peut pas se réduire à la déficience de la personne concernée. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu tout le temps dans une situation d'anormalité, impression d'anormalité par rapport à une institution, elles ont tendance à ne pas penser que leur déficience est la seule cause de cette anormalité. Et c'est dans cette configuration que le refus de l'étiquetage, de l'étiquette ou de l'exclusion, que les luttes contre les institutions seront les plus fortes et les plus fréquentes. Dans ce cas-là, malgré tout, je ne m'y attarde pas, mais j'ai pu l'observer également dans mes propres recherches, les familles qui tendent à résister se voient travailler au corps, c'est le cas de le dire, par toute une série de professionnels, notamment maintenant les enseignants référents, pour que aboutir, puisque maintenant à partir de 2005, par exemple, l'école est censée scolariser tous les enfants d'un quartier, hein, chaque parent peut scolariser son enfant dans l'école d'un quartier, il n'y a pas le droit du côté des parents, donc on a un vrai travail d'une série de professionnels pour essayer de convaincre les parents de une pression institutionnelle pour conseiller des parents qui sont en situation d'accepter la reconnaissance de handicap. Romuald s'intéresse ensuite aux effets que produit la confrontation, le plus souvent épistolaire, c'est-à-dire entre les demandeurs, les usagers et la bureaucratie du handicap. Parce que, en fait, les demandeurs, ceux qui demandent une reconnaissance de handicap, à part quelques situations, si tu veux, tu reviendras là-dessus, où ils sont auditionnés pour vérifier certains points, ils sont surtout dans un rapport épistolaire de dossier avec l'administration qu'ils rencontrent pas. Et donc, ce dossier comporte un référentiel et qui impose, qui est assez rigide, qui impose aux usagers de rentrer dans les cases de l'administration. Et Romuald souligne qu'il s'agit d'une démarche très impersonnelle, qui pourrait d'ailleurs être la même pour n'importe quelle démarche. Alors il y a un espace d'expression personnelle, mais qui est très peu utilisé comme tel, qui est formaté. Hein. Ces dossiers demandent des ressources sociales, donc beaucoup s'en remettent à un tiers, à une assistante sociale qui remplit à leur place, ce qui accentue l'impression de dépossession. Hein. Donc, il y a l'idée dans le livre qu'il y a un formatage, un effacement des particularités dans cette gestion de masse des trajectoires individuelles. Ce cadre bureaucratique conduit, pour les demandeurs, à une forme d'apprentissage de leur impuissance. Par exemple... ça va développer chez les usagers des dispositions ou des traits de caractère que l'on a trop tendance, selon Romuald, à associer directement au handicap, c'est-à-dire que, par exemple, un repli sur soi, une timidité, une gentillesse naïve, etc., qui seraient souvent associés au fait qu'on est handicapé, donc on n'a pas confiance en soi, etc., à la déficience. Alors que Romuald affirme que, au moins en partie, ces traits de caractère, ces dispositions sont un produit de l'institution bureaucratique sur les usagers en situation de demande. Le cadre bureaucratique a aussi des effets d'universalisation d'une différence visible seulement dans certains contextes institutionnels. C'est-à-dire que l'institution de second degré universalise une différence qui, au départ, avait tendance à être confinée à une institution. Et je peux être hyperactif à l'école sans que ça me pose de problème en dehors de l'école. Et donc le passage par la reconnaissance du handicap aurait tendance à avoir des effets d'universalisation. J'ai perdu le fil de mon texte. Donc, excusez-moi. Donc, l'arbitraire de la définition biomédicale du handicap a un autre effet. C'est que c'est tellement flou les définitions, tellement mouvant, tellement arbitraire, que évidemment ça conduit à monter les usagers les uns contre les autres. C'est-à-dire que évidemment les personnes handicapées vont se comparer aux autres allocataires des aides sociales en disant voilà, il y a entre le bon et le mauvais allocataire, entre le bon et le mauvais handicapé. Et Romuald souligne que cela empêche les mobilisations collectives. C- Ceci étant dit, j'avance, je saute. Le dernier thème traité par l'auteur, c'est le fait que les anormalités d'institution n'agissent pas que dans un sens, c'est-à-dire qu'elles ne conduisent pas seulement à formater des parcours de vie. Hein. C'est un thème qu'on a retrouvé un peu dans le premier exposé, c'est-à-dire qu'on a aussi des institutions qui sont travaillées, voire parfois changées par ces anormalités, qui les remettent en cause et les paralysent, surtout quand ces situations se multiplient. Le travail de Romuald est un travail qui va souligner la force de l'institué, mais qui s'intéresse aussi aux dynamiques de transformation des institutions, et selon lui, par exemple, les personnes en situation de handicap sont des facteurs d'évolution, de transformation partielle, évidemment, des institutions. Alors, par exemple, l'institution est d'abord potentiellement menacée par les contournements. L'institution handicap est d'abord potentiellement menacée par les contournements du dispositif. Par exemple, un employeur qui impose à ses employés de se faire reconnaître comme handicapés pour avoir leur quota d'employés handicapés. C'est-à-dire qu'on sort complètement de la logique telle à l'usager. L'usager ne veut pas. Romuald pose un exemple. Mais si c'est ça, tu t'en vas, je te vire, parce que moi j'ai besoin, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses partie maintenant de mon quota, que j'ai un quota de travailleurs handicapés. Les usagers peuvent aussi tenter de berner l'administration et demander, alors qu'ils savent n'être pas fondés à le faire, une reconnaissance du handicap. Il y a des fraudeurs aussi dans le domaine du handicap. Mais dans ces situations, notamment celles qui concernent les usagers, Romuald montre que souvent tel est pris qu'il croyait prendre. Et si son livre est une sociologie des transformations de l'institution, c'est pas pour autant que Romuald perd de vue que l'institué prend souvent le dessus. Alors, on me dit qu'il reste peu de temps, donc je vais passer la conclusion, qui vont m'amener à quelques remarques. Dans la conclusion, Romuald propose deux propositions qui me semblent très intéressantes. C'est l'idée de premièrement, qu'on ne réglera pas la question du handicap en se préoccupant seulement de modifier l'environnement, suivant une problématique de l'accessibilité. Cela supposerait, comme il l'écrit, que l'on puisse réduire le handicap à une incapacité résultat de la rencontre entre une déficience et des obstacles environnementaux, ce qui n'est pas le cas, il vient de déconstruire toute cette conception du handicap. Donc effectivement, toutes les politiques du handicap qui consistent simplement à modifier des facteurs environnementaux seraient relativement inefficaces. Deuxième point qui me semble très intéressant, c'est Romuald remarque que le nombre de personnes handicapées augmente avec le poids et la diversité des institutions sociales. Et c'est vrai, ce constat s'oppose à toutes les thèses contemporaines qui, en sociologie, défendent l'idée d'un déclin des institutions. L'augmentation du nombre de handicapés, l'explosion du nombre handicapés, si c'est des anormalités d'institution, montre à l'inverse le poids renforcé des institutions. Deux propositions qui me semblent assez stimulantes que Romuald formule en conclusion. Pour ouvrir la discussion, quelques remarques, pas forcément de réponses. Moi, j'ai trouvé que ce livre était extrêmement salutaire dans un contexte où on vit une sorte d'injonction à l'ouverture pluridisciplinaire, et où les sciences sociales se voient fortement invitées, y compris d'ailleurs par certains sociologues, à s'ouvrir aux disciplines expérimentales des sciences du vivant, comme les sciences biomédicales. C'est un contexte aussi où, du fait de ces invitations, on voit se multiplier des collaborations entre sciences sociales et notamment les sciences cognitives. Moi-même, je suis très impliqué dans des projets. Alors, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ton livre, avec des cognitivistes, des neuroscientifiques, en essayant de travailler ensemble. Bon. Ces collaborations sont émergentes, je peux en témoigner, difficiles, et je ne crois pas qu'elles aient encore produit des travaux vraiment intéressants, même si je maintiens que les perspectives qu'elles ouvrent me semblent intéressantes. Et dans ce contexte, il est vivifiant de voir un livre qui prend un peu le contre-pied de cette doxa interdisciplinaire et qui réaffirme le principe énoncé dans le métier de sociologue et que Romuald le rappelle, hein, c'est qu'il dans ce livre invite à ne pas abdiquer le droit à l'explication sociologique, de ne pas recourir à un principe emprunté à une autre science, qu'il s'agisse de la biologie ou de la psychologie, tant que l'efficacité des méthodes sociologiques n'a pas été complètement éprouvée. Et le livre de Romuald me semble montrer que les outils de la sociologie ont une efficacité qui légitime le non-recours à d'autres paradigmes explicatifs. Il rappelle qu'il existe une tradition très riche de travaux sociologiques qui ne sont que sociologiques, et le livre de Romuald s'inscrit clairement dans cette tradition, et que l'interdisciplinarité, si vantée, n'est encore qu'une démarche qui a encore quasiment tout approuvé. Ça me semble, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas intéressant, mais en tout cas... je trouve que, par ailleurs, je trouve que le livre de Romuald, en argumentant contre l'œcuménisme théorique, permet à tous ceux qui entreprennent des collaborations avec d'autres disciplines d'avoir un peu de réflexivité et, à l'encontre d'une vision enchantée de ce type de démarche, d'envisager aussi les risques associés à cette ouverture, et notamment les risques de validation d'une biologisation de certains phénomènes qui sont vraiment bien mis en évidence dans son livre. Bon, j'avais développé, mais vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais plus vite. Je trouve aussi que ce livre est salutaire dans un contexte où on trouve beaucoup de sociologues qui produisent des analyses qui soulignent le déclin des institutions, voire qui vont jusqu'à considérer les institutions comme des artefacts créés par les sociologues, des entités collectives que les sociologues feraient exister, feraient parler en oubliant que ces entités ne peuvent être saisies qu'au niveau des individus qui les constituent. Il y a une vraie tentative de disqualification de l'entité collective que l'institution. Et de ce point de vue, aussi bien le livre de Romuald que le livre, par exemple, de Wilfried Ligné sont des livres qui, à mon avis, sont fondamentaux pour rappeler cette importance de l'institution, de l'institué et de ces entités collectives qui pèsent sur les individus, en tout cas sans les déterminer. Mais... Donc, en définitive, un livre qui me semble très important, car il réaffirme un moment où ils sont particulièrement attaqués, des principes qui sont, à mon avis, des piliers fondamentaux de nos disciplines, et dont l'abandon éventuel mettrait en danger, je crois, notre discipline. Alors, c'est un livre qui va un peu à contre-courant de certains modes, mais je trouve que voilà, il est vraiment important dans ce sens. Alors, première remarque, j'en viens à... j'ai encore juste quelques remarques. Quand même pour, je crois que la posture que tu proposes suppose une symétrie, et, notamment vis-à-vis des sciences biomédicales. C'est-à-dire, nous, on fait ce qu'on veut, mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Et par exemple, tu cites un moment un article d'un chercheur en neurosciences cognitives qui s'appelle Kishiyama, qui a écrit avec un autre article sur la manière dont les facteurs socio-économiques affectent l'activité du cortex cérébral, préfrontal, etc. C'est là où se passent les questions d'intelligence. Et j'ai trouvé dans la note en bas de page, que je ne vais pas avoir le temps de lire, que, par exemple, tu les accuses de, finalement, assimiler les élèves, parce qu'en fait, l'idée, c'est que, développée dans cet article, c'est que les enfants issus des classes populaires ont une activité préfrontale moins intense au niveau de la mesure électrophysiologique que les élèves issus, enfin que les élèves issus, les enfants issus de classes favorisées, et que par ailleurs ces enfants issus des classes populaires ont une activité au niveau de l'intensité de leur activité du cortex préfrontal qui est proche de celle de certains enfants qui sont cérébrolésés, qui ont subi une lésion. Et donc ça ne veut pas dire du tout que les enfants issus des classes populaires sont des enfants déficients, ne serait-ce que parce que des pratiques d'intervention pourraient développer chez eux des remédiations qui ne sont pas possibles pour des récepteurs, ou d'ailleurs ça reste à prouver. Mais en tout cas, l'article ne souligne à aucun moment qu'il y a une sorte d'identité entre les enfants issus des classes populaires et les enfants, j'ai relu l'article, et les enfants cérébrolésés. Il y a une sorte de mesure identique, ça ne veut pas dire qu'il y a une identité. Et donc je trouve que, voilà, si on veut autoriser la sociologie à être relativement indépendante, il faut aussi les autoriser à faire leur truc de leur côté et pas pas les caricaturer, être prudent au moment de les accuser de réductionnisme biologique. Bon, enfin, moi, je soumets ça à ton opinion. Enfin, dernière remarque, je trouvais très intéressante l'analyse que tu fais donc, de l'administration du handicap comme une institution de second degré dont la mission est de mettre en cohérence des situations extrêmement variées qui, aussi bien au niveau de leur manifestation que de leur causalité, n'ont rien à voir. Hein ? Comme ça n'a rien à voir, on comprend dès lors que, et qu'il y a une causalité sociale et culturelle, on comprend dès lors que l'approche biomédicale est un non-sens lorsqu'elle prétend définir l'ensemble de ces situations. On pourrait dire, à ce moment-là, que la catégorie du handicap est une catégorie fourre-tout qui n'a aucune cohérence et qui est un pur artefact administratif, donc qui a néanmoins des effets sur ceux concernés par cette question. Dès lors, il me semble que deux possibilités s'offrent au sociologue par rapport à une telle situation. Le sociologue peut proposer une autre approche et une autre terminologie et une autre catégorisation. C'est ce que tu fais en proposant d'analyser le handicap comme une anormalité d'institution. Dans ce nouveau cadre d'analyse, certaines situations reconnues comme relevant du handicap n'apparaissent pas vraiment comme provoquant des anormalités d'institution. Je pense par exemple au cas que tu décris longuement d'un garçon qui souffre d'une maladie dégénérative qui est en fauteuil, mais qui ne pose aucun problème à l'institution scolaire. C'est pas un problème, aucun problème. Donc, en d'autres termes, tu refais un découpage social, c'est-à-dire la nouvelle terminologie et les nouvelles définitions invitent à un nouveau redécoupage social. La deuxième possibilité pour le sociologue est, comme tu le dis dans le livre, de partir de l'existant et de rendre compte de la catégorie de handicap telle qu'elle est construite, comme un fourre-tout, quand bien même cela ne serait pas une construction sociologiquement satisfaisante. C'est aussi, il me semble, une approche que tu adoptes dans ton livre, dans la mesure où tu essaies de donner une définition sociologique qui donne de la cohérence à ce fourre-tout. Mais dans ce cas, il me semble que le pari est difficile, car comme tu le soulignes toi-même, la catégorie relève de dimensions extrêmement variées, et je te cite, qui n'ont pas de commune mesure, notamment en ce qu'elles renvoient à des processus causaux sous-jacents de nature très différente. Certaines de ces différences significatives renvoient en effet manifestement à des processus physiologiques ou biologiques, alors que d'autres renvoient tout aussi manifestement à des processus culturels et sociaux. Et de fait, on voit bien en te lisant qu'il est quand même très difficile, même avec ton cadre d'analyse, d'analyser de la même façon la situation d'un enfant qui a un trouble moteur clairement identifié et celle d'un enfant perturbateur dont le comportement est imputé sans véritable diagnostic à un trouble ou à une déficience. Alors, en fait, j'ai envie de te poser deux questions par rapport à ça. C'est, est-ce que tu reconnais la présence dans ton livre de ces deux types d'approches, c'est-à-dire l'une qui cherche à réintroduire une sorte de catégorisation savante qui aboutirait à une sorte de découpage un peu plus sociologiquement sensé de ce qu'est la normalité d'institution, et d'autre part, finalement, une tentative à l'inverse de redonner du sens sociologiquement à ce fourre-tout, mais avec la difficulté de réunir ensemble des situations qui n'ont aucune commune mesure. Et l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, moi je me suis demandé en te lisant, est-ce que le sociologue peut parvenir à rendre compte plus que le médecin d'une certaine manière, de ces situations qui n'ont aucune commune mesure. Est-ce qu'il s'agit pour le sociologue de dénouer les causalités, de faire la part des choses, de dire attention, ça c'est ceci ou ça c'est cela, ou s'agit-il de réussir à tenir tout ensemble, quand bien même il n'a rien à voir, là où les médecins ont échoué. Est-ce que le sociologue peut réussir à tenir ensemble toutes ces dimensions qui n'ont aucune commune mesure? Puis en passant à un autre moment du livre, ça m'a aussi, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est une contradiction, tu insistes plutôt sur le continuum. Tu dis qu'on a du mal à repérer les différences dans l'institution puisque ce n'est pas la déficience, tu insistes sur le continuum. Et à d'autres moments, tu insistes sur alors ça, j'ai eu du mal à l'articuler dans ma compréhension de ton livre. Voilà. Dernière question. Dans mon travail, j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens avec des enfants de parents dyslexiques dans un service hospitalier. Et là, pour ce type de parents, je n'ai jamais eu, ça se renvoie à la deuxième partie de ton livre, jamais eu de commentaire sur le caractère problématique du passage par la case maison des personnes handicapées. Aucun ne m'a parlé de la difficulté, du formatage, du sentiment d'impuissance. Alors la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est dû à la manière de conduire les entretiens, peut-être de faire émerger une parole qui finalement n'est pas facile à évoquer? Est-ce que c'est dû au type de trouble, au fait que par exemple les troubles du langage, ce n'est pas très stigmatisant, donc c'est dans des tripes, ce n'est pas très difficile. Est-ce que toi-même tu as rencontré ce type d'attitude dans tes entretiens, parce qu'on a l'impression que tu as tendance, je crois que tu le dis même toi un peu dans ton livre, à un moment à tirer la couverture, mais peut-être dans le sens de ta démonstration. Voilà, je m'arrête là.
Merci pour toutes cette lecture, pour toutes ces questions, remarques, plutôt remarques que questions, mais Romuald, peut-être que tu commences par répondre, mais qu'on se laisse quand même un temps pour la discussion. Si on doit finir à 17h15, ça serait bien que vers moins 10, on puisse...
Ok, je regarde l'heure. Alors merci d'abord, merci pour l'invitation, merci pour la lecture précise, comme tout à l'heure. C'est d'autant plus agréable qu'il y avait cette première lecture, donc ça permet aussi de faire des liens. Je vais peut-être en faire quelques-uns. Je vais peut-être d'ailleurs même commencer par ça avant de répondre aux questions, parce qu'il y a quand même l'esprit de Vincent Dubois qui plane au-dessus de nous cet après-midi, puisque... tu ne l'as pas précisé, mais ce livre est tiré de mon travail, d'un travail que j'ai fait pour mon HDR. HDR, dont le garant était Vincent Dubois. Et effectivement, donc, il est à la fois une source, une référence assez forte dans le livre concernant ma manière de travailler. Et par ailleurs, il est académiquement, institutionnellement, plus ou moins accompagnant dans ce travail. Voilà, donc je voulais le dire, et puis par ailleurs il y a aussi plein d'autres points communs. Il y a évidemment l'institution, c'est pas le hasard si on est ensemble aujourd'hui. Il y a la question aussi d'un usage de la sociologie de l'action publique, d'où aussi l'importance de Vincent Dubois, mais d'une sociologie de l'action publique qui s'enferme pas en quelque sorte dans les classiques des questions posées par la sociologie de l'action publique, qui ouvre vers diverses autres questions, et c'est ce qui, je trouve, est passionnant d'ailleurs dans la sociologie de l'action publique, un secteur que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est un secteur qui, même quand il n'en a pas conscience, touche à des questions de sociologie générale vraiment fondamentales. On le voit à travers les cours de Bourdieu sur l'État, il se ressaisit de travaux de sociologie de l'action publique qui se posent pas nécessairement les mêmes problèmes que Bourdieu, mais on voit comment Bourdieu arrive, en s'appuyant sur ces derniers, à poser des questions extrêmement générales et pertinentes sur le fonctionnement du monde social, la construction de l'ordre social, etc. Donc en tout cas, moi, c'est un petit peu dans cette optique-là que je me plaçais. Alors j'ai fait évidemment aussi ma thèse moi, au CSE, sous la direction de Rémi Lenoir et Bertrand Jay, donc je pars de Bourdieu et progressivement j'essaie de le retravailler à ma manière, et notamment via le concept d'institution qui, pour moi, était une sorte de moyen de mobiliser Bourdieu, mais en allant voir aussi chez des auteurs, dans des cadres théoriques qui sont assez peu présents chez Bourdieu. D'ailleurs, même le concept d'institution, il n'est pas totalement absent, mais il est très peu présent, très peu mobilisé par Bourdieu. Et je trouve, alors peut-être que Gérard pourra nous en dire plus, mais je trouve qu'il est extrêmement prudent. C'est pas juste qu'il l'utilisait peu, c'est que quand il l'utilise, il est extrêmement prudent avec ce concept. Il le définit pas, ou quand il le définit, c'est vraiment de manière très très générale. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose là, en tout cas, un moyen d'interroger aussi le travail de Bourdieu à travers ce concept-là, sur la manière dont il essaie de tenir ensemble, en fait, des mécanismes sociologiques un peu macro, en tout cas les structures sociales, par exemple, pour faire vite, et puis l'intérêt qu'il avait pour la différenciation, les positions, ce que tu évoquais tout à l'heure, la capacité des acteurs à mobiliser les règles de manière extrêmement variée. Et donc, c'est toujours compliqué de tenir les deux ensemble. Bourdieu est sans doute celui qui a poussé le plus loin cette manière de faire, ce qui fait, par ailleurs, c'est juste une parenthèse, mais que chez les philosophes dont je me suis par ailleurs inspiré, les philosophes de l'institution qui se disent holistes, qui voient généralement chez Bourdieu une sorte d'individualiste, en fait, pas un holiste, parce qu'il insiste tellement sur la question de l'habitus, des positions, des individus, que finalement, l'institution, elle perd un peu de sa force. Voilà. Mais bon, alors du coup, peut-être que je refais l'histoire en refaisant un peu ce que Bourdieu a essayé de faire avec, par exemple, Lévi-Strauss et Weber, mais ma manière de faire, c'est d'essayer de relire Bourdieu à travers ses travaux sur l'institution qui sont de plus en plus présents, à la fois en philosophie et dans la sociologie de l'action publique, et voilà, et qui m'a aussi conduit par ailleurs à revenir à Durkheim. Alors là, c'est étonnamment, mais comme ça, voilà, on revient toujours à Durkheim, voilà, finalement, à la fin. Donc. Mais voilà, en tout cas, c'est simplement pour faire une petite parenthèse sur voilà, des références un peu théoriques. Donc sur les philosophes, hein, vous avez deviné que je parlais essentiellement de Vincent Descombes, il y en a quelques autres, mais c'est sans doute lui, en tout cas en France, hein, celui qui a le plus développé cette question de l'institution et de la nature même du social. Et donc c'était aussi un des enjeux du livre, hein, que de travailler sur cette question-là, le social finalement c'est quoi ? Alors ça, c'est la question que je me posais, et puis pour faire un petit peu comme tu as fait tout à l'heure, je trouvais ça très bien, tu disais, alors toi aussi, de partir de la question, même si finalement après toi tu as beaucoup ouvert, mais de la question que tu te posais au départ, comment est-ce qu'on peut administrer quelque chose qui semble être tout le contraire de quelque chose d'administrable. Moi, un peu la question que je me posais au départ, c'était, tu l'as évoqué mais sans le présenter comme une question centrale, c'était comment est-ce que le concept de handicap ou la catégorie de handicap peut mobiliser autant de gens avec autant de force, alors même que ces gens-là sont généralement incapables de définir de quoi ils parlent. Voilà, mon enquête a un peu commencé comme ça, en demandant, y compris à des médecins, hein, c'est quoi le handicap. Et la plupart du temps, soit ils sont tout à fait incapables de répondre, soit ils me répondent des banalités qui sont pas de... Alors le grand classique, c'est par l'exemple. Hein. Le handicap, c'est une personne en fauteuil. Voilà, mais c'est pas une définition, c'est un exemple. Voilà, donc ma question, c'était comment est-ce que cette catégorie peut avoir autant de poids, avoir autant d'effet, mobiliser autant de gens, autant d'énergie, alors même qu'il semble très difficile de la concevoir et que les gens qui la mobilisent, finalement, semblent pas du tout avoir besoin d'une quelconque... conception ou définition précise. Voilà, donc c'est, tu vois, ça, je viens progressivement à tes questions, puisque le flou fait partie évidemment de l'efficacité de cette catégorie. Alors, très rapidement, donc, je commence par tes remarques, hein, qui n'étaient pas vraiment des questions, mais qui m'ont évoqué des réponses possibles. Tu parles de la question du pluridisciplinaire, tu dis que je prends à contre-pied ce qui est vrai, mais en même temps je vais nuancer. À contre-pied, la tendance contemporaine qui est une invitation au pluridisciplinaire, et notamment avec les sciences dures, en tout cas en ce qui nous concerne, alors, peut-être pas la physique, mais en tout cas la biologie, la médecine, etc. Si tant est que la médecine soit une science dure, il y a encore même juste une science. Mais, en tout cas, donc effectivement, je prends le contre-pied, mais pour les raisons que tu as évoquées quand tu citais le métier de sociologue, c'est-à-dire qu'avant de travailler avec ces gens-là, il faut voir jusqu'où on peut aller en utilisant et en ne mobilisant que des schèmes d'analyse et des concepts sociologiques. Et donc j'ai essayé d'aller le plus loin possible, alors sans doute, c'est pas parfait, on pourrait encore pousser plus loin, mais en tout cas c'est un premier pas, d'ailleurs je l'annonce comme ça dans le livre, c'est une base de travail pour moi et sur laquelle que j'aimerais encore prolonger et approfondir, mais ça implique paradoxalement le pluridisciplinaire. C'est-à-dire, tu l'as vu, tu as évoqué, j'y reviendrai aussi, des articles, hein, que je cite, par exemple, de neurobiologistes ou de neuropsychologues. Donc ça implique de les lire, ce que tu fais aussi beaucoup, je sais. Ça implique de les lire, ça implique de s'approprier les savoirs d'autres disciplines, y compris donc la biologie, la médecine. J'ai lu beaucoup d'épidémiologie. L'enquête handicap santé, d'ailleurs, que j'ai beaucoup mobilisée dans la première partie, a cette spécificité d'être une enquête qui a été fabriquée à la fois par des sociologues et des épidémiologues, des médecins, ce qui permet aussi, hein, de valider, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une partie des interprétations que je fais, par exemple, de la possibilité d'erreur. Voilà, je trouve que c'est un argument très peu solide, dans la mesure où les résultats ont eux-mêmes été corrigés par des médecins, c'est-à-dire qu'ils ont renforcé encore les effets. Par exemple, quand des personnes disent dans le questionnaire qu'elles n'ont pas de déficience, les médecins cherchent tous les indicateurs qui pourraient les contredire, et s'ils en trouvent, ils annulent la réponse. Voilà, il y a une procédure, elles ne le font pas systématiquement, c'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas il y a les résultats du questionnaire ont plutôt tendance à renforcer l'existence de déficiences. Alors c'est Jean-Sébastien Hildelumann qui l'a repéré, hein, qui m'a indiqué ce point en trouvant une partie d'explication où il y a un médecin qui donne un exemple, qui dit qu'il a trouvé une situation, enfin une personne qui répond, qui dit qu'elle a aucune déficience, aucun problème, mais elle dit avoir été dans un cabinet, rencontrer un psychiatre. Bon, on ne sait pas combien de fois, on ne sait pas pourquoi, mais donc il dit, bon, ouais, maladie psychique. Donc il replace donc cette personne dans la catégorie. Ouais, il élimine déficience. Donc alors voilà, s'il y a erreur, c'est plutôt en grossissant qu'en réduisant la fréquence et la nature des déficiences. Mais alors donc pour revenir sur le pluridisciplinaire, paradoxalement donc ça conduit plutôt au travail pluridisciplinaire, et il se trouve que comme toi, moi je suis aussi engagé dans des projets pluridisciplinaires, donc j'ai pas refusé du tout de le faire. Là il y a un projet, alors, je sais pas si on arrivera à aller jusqu'au bout, mais on a travaillé avec des biologistes et des neuropsychologues sur le vieillissement. Ouais. Et mon objectif, c'est au-delà donc de tout l'aspect sociologie de l'action publique, hein, tu as travaillé sur la question de la politisation et de l'institutionnalisation de la question du vieillissement, qui est en fait qui se rapproche de plus en plus du handicap, donc ce ne serait qu'un prolongement de ce que j'ai fait. C'est la question des effets, comme tu l'as fait aussi, hein. Mais là, cette fois, en allant encore plus loin, c'est les effets sur le corps. Et là, encore une fois, l'enjeu, c'est toujours de montrer que les sociologues ont des choses à dire, y compris aux biologistes ou aux médecins, de montrer comment les corps sont en fait, les corps vieillissants sont façonnés par des contextes sociaux, par des procédures sociales et par des institutions. Et donc là, on a toute une série de données sur à la fois des pratiques, hein, pratiques alimentaires, pratiques sportives, pratiques d'hygiène, mais aussi toute une série de données qui sont généralement réservées aux médecins et aux biologistes, c'est-à-dire de la biométrie, y compris génétique par moment. Enfin, on a eu une recherche de gènes. Alors, il y a tout un enjeu, alors, qui est sans doute... c'est un peu trop espéré d'observer qu'il y ait une distribution sociale non contingente de certains gènes, mais en tout cas c'est pas le principal. En tout cas c'est de montrer que par exemple sur des choses, mais Georges Canguilhem en parle, hein, déjà dans le normal et le pathologique, c'est-à-dire qu'il y a des variations en termes de pression artérielle, des choses qui sont vraiment d'ordre des choses médicales ou physiologiques, et qui varient très fortement d'un milieu social à l'autre, d'un pays à l'autre, hein, etc. Donc il y a des choses, je pense, qu'on n'a pas encore travaillé, ou très peu, en sociologie, et qui mériteraient qu'on y regarde, et qui donneraient plus de poids au regard notamment de nos échanges avec d'autres disciplines. C'est ce que font un peu les épidémiologues sociaux, l'épidémiologie sociale, sauf qu'ils le font avec une non-maîtrise des catégories sociologiques, et du coup, par exemple, les classes sociales, pour eux, les PCS, c'est une interprétation un peu bizarre parfois de ce que ça peut signifier. Voilà, donc l'idée, c'est de faire ce qu'ils font, mais en partant de plutôt du social, enfin du sociologique, et voilà. Moi je pense qu'il faut faire du pluridisciplinaire, mais pas parce qu'on nous le demande, et pas parce que pas pour abdiquer, quoi. Pour leur montrer tout ce qu'on peut leur apporter, et parce qu'on a besoin de leur donner parfois, parce que par contre ce qui est très difficile, c'est l'accès à ces données là alors pas parce qu'elles sont secrètes, hein, mais parce que ça implique des outils, par exemple là, alors c'est pas ce qui va être central dans mon travail, mais les gènes dont je parlais, il faut pouvoir en mesurer l'existence, et donc c'est des prélèvements qui sont faits de salive essentiellement, mais après il faut avoir l'outil biologique pour identifier l'existence ou non de ce gène. Ce sont des polymorphismes génétiques plus exactement, mais voilà, mais même des mesures biométriques plus classiques, hein, comme la pression artérielle, il s'agit pas de, enfin, il y a des gens qui savent très bien le faire, il y a pas en tout cas, voilà, il y a cette question-là. Et puis, finalement, peut-être que c'est ton cas aussi, quand on travaille avec ces personnes-là, alors souvent, on a quand même des gens qui vous regardent de haut, hein, quand vous êtes sociologue et vous parlez à un biologiste, mais il y a quand même, j'ai rencontré 2-3 personnes qui sont quand même assez curieuses et assez intéressées de voir ce que le sociologue peut leur apporter, surtout quand on fait l'effort de les lire et de s'approprier leur vocabulaire, parce qu'il y a souvent aussi toute une série de malentendus liés à l'usage qu'on fait des mêmes termes, mais auxquels on ne donne pas le même signification. Et il y a quand même quelques personnes qui sont assez ouvertes, en toute mesure gardées. Hein, on se rappelle du du texte de Muriel Darmon, sa première rencontre, je ne sais plus comment on appelle, la boulangère.
Le refus de terrain.
Le refus de terrain par un psychiatre qui était pas, censé être particulièrement ouvert aux sciences sociales et qui, du coup, devient particulièrement, enfin, rejette particulièrement fortement la jeune sociologue qui est Muriel Darmon à l'époque. Mais donc, voilà, ils sont, on trouve quand même des gens qui sont capables d'échanger, de travailler. Et je pense que plus on... Donc, ce n'est pas du tout une demande de refus de pluridisciplinarité, pardon, mais plutôt une manière de dire qu'on est loin d'avoir été aussi loin qu'on pouvait, y compris en allant sur le terrain de ses collègues. Donc, travailler avec eux, ça ne veut pas dire simplement additionner les savoirs, mais ça veut dire s'approprier leurs savoirs. Voilà, peut-être c'est mieux de le dire comme ça. Ensuite, sur les entités institutionnelles, effectivement, alors c'est quelque chose qui m'a perturbé. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de Bourdieu tout à l'heure et de l'usage, parce que, évidemment, le réflexe que j'ai venant après ma thèse, c'est systématiquement, je lis beaucoup moins Bourdieu que je le lisais à l'époque, mais quand j'ai un problème, systématiquement, le réflexe, c'est d'aller voir est-ce que Bourdieu en a parlé, pour au moins donner des pistes de réflexion, un point de départ. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim concernant les institutions, même s'il en parle plus dans ses cours que dans ses ouvrages. Mais on reste un peu sur sa faim. Et donc, progressivement, j'ai ouvert à d'autres lectures, notamment donc en sociologie politique, où ils en parlent beaucoup. Mais là aussi, c'est avec des conceptions vraiment très opposées et parfois des combats, on va dire, très violents, en tout cas des confrontations assez violentes entre, dans le champ des sociologies, de la sociologie des institutions, par exemple, entre institutionnalisme, néo-institutionnalisme, approche socio-historique des institutions, et puis les philosophes qui, à leur tour, entrent dans le débat et proposent des choses en repartant de Mauss ou de Durkheim, etc. Donc il y a des choses très intéressantes en sociologie politique. Il y a aussi des gens qui se disent Wittgensteiniens, qui repartent de là, mais en même temps, d'une façon qui ne me convient pas nécessairement. En gros, il y a une sorte de nominalisme assez fort qui s'impose souvent à la fin. Alors pas chez tous les sociologues des institutions, loin de là, mais en tout cas chez plutôt les sociologues qui s'inspirent des philosophes et qui de Wittgenstein et qui conduisent à dire que finalement, bon, on parle des institutions, mais bon, il y a des règles. Puis ce qui compte, c'est qu'il y a des individus, voilà, point. Et bon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Ou alors, ils prennent le contre-pied inverse et on durcit les choses. Donc les institutions, c'est des organisations, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas réussi complètement à tenir les choses. J'ai essayé d'essayer de donner une épaisseur théorique à ce qu'on ait plusieurs à faire. Ce que tu fais, je pense. Hein. Je pense que c'est très lié, mais plutôt que... Ou Vincent Dubois, voilà. Mais plutôt que de dire, voilà, je ne me pose pas les questions, c'est peut-être parce que j'ai été étudiant de philosophie longtemps, hein, donc j'ai toujours ce besoin de rentrer dans le débat conceptuel, mais de dire, voilà, si on tient les deux ensemble, comment est-ce qu'on peut le faire ? Quelle définition de l'institution on peut faire, etc. C'est pour ça que j'ai fait une approche plutôt réaliste des institutions, qui pourtant ne remet pas en cause que les institutions n'existent que s'il y a des agents qui les font exister. Mais en même temps, elles ont des effets propres. Comme le dit Descombes, c'est pas parce que, par exemple, quand on parle du PSG, hein, par exemple, l'équipe de foot, hein, quand on parle du PSG, c'est pas parce que les joueurs sont blessés et que du coup il y a des remplaçants que c'est plus le PSG. Ce qui veut dire que l'institution, elle n'existe que parce qu'il y a déjà des agents qui la font être, mais en même temps, c'est pas parce que les agents qui sont censés la faire être arrêtent de la faire être que ça disparaît complètement. Il parle aussi de la forêt de Fontainebleau. Si on l'a rasée, ça aurait quand même du sens de parler de la forêt de Fontainebleau, et on pourrait même, sans doute, les gens continueraient à dire sur l'espace, même s'il n'y a plus un seul arbre, que c'est la forêt de Fontainebleau, voilà, pour indiquer le lieu. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Du coup, ça a des effets, l'institution a des effets, indépendamment finalement de ce que les agents en pensent, même si évidemment il faut qu'il y ait des agents qui la mobilisent pour qu'elle ait une existence. Voilà. Bon, il faudrait que j'aille plus loin, mais je vais essayer d'être un peu plus synthétique et pas trop long. Alors sur les neurobiologistes dont tu as parlé, alors oui, l'article dont tu as parlé, en fait c'est beaucoup moins clair dans le texte de l'article. Effectivement, ils sont beaucoup plus prudents que ce que je laisse entendre, mais c'est, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est dans le résumé. Alors après, il faudrait que je vérifie, mais c'est le petit résumé. Dans le, là, ils sont beaucoup moins prudents, ils font comme
moi,
si.
J'ai pas trop, moi, je l'ai lu, moi, j'ai pas trouvé. Mais c'est un détail, et, laisse tomber. Parce que
et, c'est non, mais après, il faudrait vérifier parce que moi, j'ai eu la version pré-publication par un collègue qui avait eu accès. Et donc, ça se trouve, dans la, au moment de la publication, il y a eu une version. Voilà. Mais bon, non, en tout cas. Oui, non, mais bien sûr. Et oui, et puis par ailleurs, je sais pas si tu connais la revue dans laquelle ça a été publié. Là, il y a quand même une collection d'articles caricaturaux de ce point de vue-là, assez édifiante. Il y a un psychologue social à Poitiers qui en fait la collection, c'est par l'Uglius, c'est Jean-Claude Croisé qui a travaillé avec Mathias Millet, qui fait une collection comme ça des articles de neurobiologistes ou de neuropsychologues qui traduisent tout comportement par des biais neurologiques, mais de manière extrêmement caricaturale. C'est lui qui m'avait passé cet article-là. Donc, en tout cas, dans cette revue, il y a beaucoup d'autres exemples qui sont intéressants. Il reste qu'une chose quand même qu'on peut dire sur cet article, même s'ils sont très prudents. Alors, ils mettent en parallèle, vous avez compris, hein, le fonctionnement cérébral, pour faire simple, d'enfants d'origine populaire, et puis d'enfants d'ouvriers, et puis d'enfants qui ont eu un accident cérébral. Juste, il montre qu'il y a une proximité, sans dire que, pour autant, voilà. Mais ce qui est ambigu, d'abord, c'est d'abord de faire la proximité. Et puis surtout, ce qui est intéressant, ce serait de dire que... enfin, il n'y a aucun raisonnement sur le fait que... Enfin, parce que moi, je trouve quand même qu'il y a une manière de le dire qui fait qu'ils n'en concluent rien. Mais ils pourraient dire, ça peut remettre en question... ce qu'on décrit comme étant un fonctionnement typique de l'enfant cérébro-lésé, puisqu'en fait il n'y a pas besoin d'être cérébro-lésé pour avoir le même fonctionnement, et en fait ils ne le font pas du tout, donc ils laissent entendre que s'il y a une comparaison à faire, c'est quand même dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que ça avait marqué, mais effectivement eux ils ne se positionnent pas, hein. Mais bon, voilà. Et ensuite, alors, je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ce que tu me dis sur la catégorie floue qui subsume des situations incommensurables. Alors, le fait, comment, pour essayer d'être clair, je dirais que, en fait, ce que subsume la catégorie, c'est moins des situations que des processus. C'est en ce sens-là qu'elle tient. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les situations qu'elles subsument, en fait, elles sont incommensurables. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point commun entre tel handicap, tel autre handicap, y compris sur les conséquences, hein, au quotidien ou sur la vie de tous les jours. Et donc, on met sous une même catégorie des situations complètement incomparables. Il reste que, on ne voit pas comment ça peut tenir, sinon par la force, évidemment, de l'institution, hein, de l'État. Mais c'est aussi parce que ça tient aussi parce qu'en fait c'est une demande des institutions. On pourrait le penser comme un problème public, mais qui serait pas produit par des entrepreneurs de morale, mais par des institutions en fait qui sont dans une demande de régulation de leur propre régulation. Et du coup, l'État, dans une certaine mesure, se saisit de cela, le politise, le recolore, lui donne une coloration qui l'arrange. Hein. C'est là que j'insiste sur la convergence entre l'émergence de cette catégorie et les politiques de décentralisation. En plus, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a la décentralisation qui n'est pas encore mise en place, mais qui commence à se mettre en place. Il y a la première loi sur un handicap qui arrive, puis après la décentralisation arrive, se met en place, et du coup, ils en font une deuxième parce que pour réajuster à cela, sans parler en plus du new management public, de toutes ces choses-là qui ont reconfiguré fortement l'action publique en France. Et donc, la catégorie, elle surfe là-dessus, elle se construit à partir de cette évolution de l'action publique et donc de l'action de l'État. Ce qu'elle subsume, dans la procédure, c'est pas ce qu'elle vient englober, même si elle dit le contraire, même si elle dit qu'elle regroupe des situations, en fait, c'est pas ce qu'elle fait. Et pour le continuum aussi, mais je vois bien la tension, hein, moi-même, quand j'écris, des fois, je perds le fil, parce qu'en fait, il y a un continuum du point de vue des critères du handicap au sens biomédical. Si tu considères la déficience, parce que par exemple, la déficience, souvent, il y a des différences de degré entre la telle déficience importante, telle petite déficience, et le pas de déficience du tout. Souvent, il n'y a pas de saut, tu ne sais pas où couper. Alors, l'exemple idéal typique, c'est le plus simple, hein, mais c'est l'intelligence, c'est les tests de QI. Alors, on a une belle courbe de Gauss, 100 c'est la moyenne, 70 c'est la frontière entre la déficience et la normalité. Mais pourquoi 70 ? Pourquoi ils ont coupé là ? Il y a entre celui qui a 69 et celui qui a 71, il y a des gens entre les deux. Voilà, donc il y a un arbitraire du découpage, mais en plus il y a une continuité que l'institution vient découper de manière arbitraire. Mais seulement, du point de vue des procédures de l'institution, en fait, ce que j'ai montré, c'est que ce n'est pas si arbitraire que ça. C'est que l'institution, il y a un continuum du point de vue des critères officiels, c'est-à-dire des critères biomédicaux, mais du point de vue du fonctionnement de l'institution, il n'y a pas de continuité. Il y a une rupture. Tu vois, parce qu'il y a toutes les situations qui sont gérables, en gros, enfin qui sont gérables, qui posent des problèmes à l'institution, hein, mais pour lesquelles l'institution a prévu des réponses. Et il y a ces situations-là qui peuvent, du point de vue biomédical, être moins graves et qui, pour autant, d'ailleurs, il y a toute une série de situations biomédicales qui sont plus graves que beaucoup de handicaps et qui ne sont pas considérées comme des handicaps parce qu'en fait, ça n'empêche aucune institution de fonctionner. Et donc la rupture se fait là. Tu vois, il y a un continuum du point de vue des critères biomédicaux, mais il n'y a pas de continuum du point de vue du fonctionnement institutionnel.